Depuis que je travaille sur le numérique, et ça commence à faire un bout de temps, hein, il se passe un truc assez beau. Je cherche rarement des sujets, ce sont des gens qui me parlent de sujets. Et ça arrive tout le temps, dans des mails, des tweets, des discussions, des gens me disent « Ah, tu devrais aller voir Bidule qui travaille sur ça », ou alors « J'ai lu tel auteur, vous devriez vous y intéresser », ou encore « Ah tiens, vous devriez aller voir mon collègue machin qui fait des choses passionnantes », etc. Bon, en gros, depuis 15 ans, je vis dans un réseau social multiforme de geeks généreux, et j'ouvre des onglets. C'est assez reposant. C'est encore ce qui s'est passé cette fois-ci. Je croise le sociologue Dominique Cardon, grand pourvoyeur d'idées de sujets depuis le début, qui me dit « Ah, j'invite Ethan Zuckerman au Media Lab de Sciences Po, tu devrais le rencontrer, il a plein de choses à raconter. » Eh ben, je me suis pas fait prier. Ethan Zuckerman, c'est une légende de l'Internet. Un type hyper respecté. Il est à l'origine d'initiatives très belles, comme Global Voices Online, qui est une sorte de réseau de traduction d'articles du monde entier, ou comme Geek Corps, un réseau de pros de l'informatique chargé d'aider les pays moins dotés en numérique. Il était aussi dans le premier conseil d'administration de la fondation Wikimedia, qui chapeaute Wikipédia. Et puis, il a aussi une production intellectuelle qui est très importante. Le code n'a jamais changé. Bon, déjà, il a été au MIT pendant plus de 10 ans. Il est membre du Berkman Center for Internet and Society depuis des lustres. Et il a légué à la postérité quelques théories assez pertinentes, comme par exemple celle de l'activisme numérique du chat mignon, qui explique en gros que l'activisme numérique politique est plus efficace et plus protégé quand il se glisse dans les grandes plateformes très populaires et les codes qu'elles véhiculent, souvent assez divertissants. Bref, Ethan Zuckerman, c'est un personnage important de l'histoire d'Internet.
Le code a changé.
Mais dans sa biographie, il y a un truc qui m'a toujours chiffonné. On dit qu'il est l'inventeur de la pub pop-up. La pub pop-up, c'est vraiment une plaie de l'Internet. C'est la fenêtre de pub immonde qui s'ouvre sans qu'on le demande et qui vient cacher le contenu qu'on attend. C'est l'horreur. C'est le symbole de la contamination du web par la publicité. Et je ne vois pas du tout comment ça s'intègre dans la trajectoire d'Ethan. J'avoue honteusement que c'est un peu ça que j'ai en tête quand on se retrouve dans un café de Saint-Germain-des-Prés, à Paris, pas loin de son hôtel, et qui se remplit à mesure qu'on discute. Il est assis sur une banquette avec son style et son corps d'américain, et aussi avec sa manière à la fois très chaleureuse et intimidante de parler. À quelques mois près, on a le même âge, mais j'ai l'impression de discuter avec un sage, donc j'y vais respectueusement, et je commence par lui demander ce qui l'intéresse en ce moment, ce à quoi il réfléchit ces jours-ci.
Ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est de savoir quelles sont les alternatives aux réseaux sociaux existants. Aujourd'hui, tout le monde s'entend sur le fait que Facebook, Twitter et les autres plateformes du même genre ne marchent pas très bien.
C'est marrant parce que j'aurais pensé qu'Ethan allait me parler d'autres choses, de choses liées aux innovations dont on parle en ce moment, le métavers, les NFT. Eh ben non, ce qui l'intéresse, ce sont les réseaux sociaux. Mais il parle d'alternatives et alors là, je suis curieux de savoir à quoi il pense.
Les expériences qui m'excitent le plus, ce sont les réseaux qui reposent sur des banques de données personnalisées. Vous contrôlez vos données, vos posts vous appartiennent, et cela fabrique le réseau social. C'est très malin, très difficile à faire fonctionner aussi. Je suis aussi curieux et même assez critique du Web 3.0 et de ses approches, où les données deviennent votre propriété, et où tout est traité selon le droit de la propriété. Je pense que c'est une très mauvaise idée.
Ah tiens, j'aimerais bien qu'Ethan m'explique pourquoi, selon lui, le Web 3.0 est une très mauvaise idée. Bon, pour aller vite, le Web 3.0, ce serait un Internet complètement décentralisé, qui reposerait sur la technologie de la blockchain, celle à laquelle est adossé le Bitcoin, avec pour principe qu'on est propriétaire de ses données personnelles. Je demande donc à Ethan pourquoi ça lui plaît pas.
Mes amis qui travaillent dans le Web 3.0 s'attaquent au bon problème. Ils essaient de répondre à des questions comme « Peut-on rendre Facebook moins puissant ? Est-ce qu'on peut changer le paysage des outils à disposition ?» Mais ils n'ont qu'un outil en main, le marché. Et ça ne suffit pas. Tout constitué en propriété privée a juste pour effet que ce seront d'autres gens qui posséderont tout. La principale disruption produite par la crypto-monnaie jusqu'à maintenant est que des gens, en général de jeunes blancs, possèdent beaucoup d'argent imaginaire, par opposition à un monde où de vieux hommes blancs possèdent beaucoup de vrai argent. J'ai du mal à voir ça comme un progrès. C'est décevant. C'est l'inverse de l'imagination. Ce que j'aimerais, c'est voir des gens imaginer d'autres structures économiques autant que d'autres structures techniques.
Bon, là, Ethan, il parle d'or. On ne peut qu'être d'accord avec lui sur le fait que jusqu'à maintenant, les technologies ont produit un renouvellement de l'élite sans pour autant changer quoi que ce soit aux règles fondamentales de notre monde. Ça me fait d'ailleurs penser à cette scène du super film de David Fincher qui raconte la genèse de Facebook, The Social Network. Une scène où Sean Parker, qui a créé Napster et a ébranlé donc l'industrie du disque, donne une leçon à Mark Zuckerberg et Eduardo Saverin, les deux créateurs de Facebook, à un moment où le réseau social s'appelle encore The Facebook.
The Facebook, c'est cool et c'est pour ça que ça marche. Il faudrait pas tout foutre en l'air avec la pub. La pub, c'est pas cool.
Exactement.
C'est comme si vous organisiez la fiesta du siècle au campus et qu'on disait qu'il fallait remballer avant 11h.
C'est exactement ça.
Vous vous rendez compte que vous savez pas encore ce que c'est?
Exactement ce que j'ai dit.
Jusqu'où ça va se développer, jusqu'où ça va aller? C'est pas le moment de quitter la partie. $1 million, c'est pas cool. Vous savez ce qui est cool,
toi?
$1 milliard.
Voilà. Facebook est devenue une entreprise richissime en se faisant passer pour un truc cool, qui ne cherche pas à gagner de l'argent. Si j'en crois Ethan, le web 3.0 risque de faire gagner plein d'argent à quelques personnes sous prétexte de casser le monopole des précédents. Bref, rien ne change sous le soleil. Donc, c'est quoi les alternatives? Les modèles vertueux? Parce que c'est super ce dont parle Ethan. Mais qu'est-ce que ça peut contre des énormes mastodontes comme Facebook?
Il n'est pas nécessaire d'être énorme pour être important. L'erreur, c'est de regarder les 3 milliards de personnes qui sont sur Facebook et de dire « Ce qu'il faut, c'est de créer une alternative à Facebook qui rassemble 3 milliards de gens. 3 milliards, c'était la mauvaise idée de départ. » En fait, ce dont vous avez besoin, ce sont des milliers de petits réseaux sociaux que les gens possèdent et contrôlent. Il faut une architecture qui permette aux gens d'être membres de dizaines de réseaux sociaux différents, qui ont chacun des fonctions différentes. Je veux avoir des conversations différentes avec des gens du boulot, avec des gens de mon village, et avec des gens qui partagent mon goût pour la sculpture. Ce sont des communautés différentes et elles peuvent être de tailles différentes, obéir à des règles différentes. Je pense que la question de l'échelle n'est pas la bonne. L'échelle est le problème, pas la solution.
Ah, c'est sûr, c'est quelque chose qu'on entend tout le temps. Il faut construire le Google européen, il faut construire le Facebook européen. Dans l'idée qu'on va créer un énorme truc européen capable de concurrencer l'énorme truc américain. Je trouve que l'argument d'Ethan consistant à dire que, pour les réseaux sociaux au moins, la taille est le problème et pas la solution, c'est passionnant. J'aime beaucoup cette idée de petits réseaux sociaux. Mais bon, ça coûte cher un réseau social. Et je vois pas comment on finance un truc qui a quelques centaines de membres.
Ce n'est pas cher. Faire fonctionner un réseau social pour 500 personnes, ça coûte moins de 50 euros par mois. Si tout le monde participe un tout petit peu, ça ne pose pas de problème. Ce qui coûte cher, c'est la modération. Mais pensez les choses différemment. Pensez-y comme de la gouvernance et non plus de la modération. Si on a un club de 500 personnes, qu'on élit des chefs, dont le travail serait de définir les règles de la conversation, qu'on assume la modération à tour de rôle et qu'on participe chacun à hauteur de 1 euro par mois, on a notre espace, notre réseau.
En l'écoutant, je me dis, mais c'est pas possible que le type qui tient de tels propos ait un jour inventé la pub pop-up. La coopérative, ça colle pas avec la pub pop-up. Est-ce que je lui demande tout de suite? Non. J'attends. C'est mieux. Donc, je suis Ethan dans sa description du réseau social idéal, parce qu'il y a quand même un truc qui me taraude, un truc très concret. Je vois bien l'intérêt politique de la chose, mais qu'est-ce que ça changerait pour les usagers?
Ah, mais ça changerait beaucoup de choses pour les usagers. La première est qu'au lieu d'avoir une application pour Facebook, une autre pour Twitter, qui au passage sont des outils de surveillance, parce que quand vous utilisez Facebook sur votre téléphone, L'appli regarde chaque swipe, chaque touche sur laquelle vous appuyez et ajoute ça à vos données personnelles. Par ailleurs, vous n'avez aucun contrôle sur ce que Facebook vous donne à voir. C'est un algorithme qui décide de ce que vous allez voir ou pas. Donc, au lieu de ce genre d'application, vous auriez sur votre téléphone une application qui ne dépend que de vous. Elle connaîtrait vos préférences, vous pourriez les définir et les rectifier. Elle contrôlerait vos données. Si Facebook les veut, il doit négocier avec vous pour définir à quelles données vous le laissez accéder. Et tous vos réseaux sociaux passeraient par cette application. Donc, vous pouvez encore être sur Facebook ou Twitter, mais vous faites aussi partie de réseaux sociaux que vous possédez, que vous modérez et que vous gouvernez. Idéalement, vous pourrez partager des contenus d'un réseau à l'autre. Mais il y aura aussi des conversations fermées et qui n'auront lieu que dans un endroit. Donc c'est surtout un changement dans les attentes. Aujourd'hui, nous n'attendons de ces plateformes absolument aucun droit. Et d'ailleurs, nous n'en avons aucun. Dans le monde que j'aimerais créer, on s'attend à avoir une bonne part du contrôle et de l'autorité sur ce qu'on fait. Et en échange, on a plus de responsabilités.
Ok, mais plus de responsabilités, c'est plus de travail et c'est plus d'efforts. Il me semble qu'une des grandes forces des réseaux sociaux qu'on connaît, c'est de nous faciliter le travail jusqu'à l'extrême. On n'est même pas obligé de participer vraiment. On peut se contenter de consommer passivement. Et d'ailleurs, le seul effort qui nous est demandé, souvent imposé par la loi, nous ne le fournissons pas. On ne lit pas les conditions générales d'usage. Bon, d'accord, c'est super long à lire et c'est pas toujours compréhensible. Mais bien souvent, on garde les paramètres par défaut, on accepte les nouvelles règles qui nous sont imposées pendant une mise à jour, par exemple, sans même prendre le temps de les adapter. Bref, je trouve que Ethan, il est super optimiste dans l'idée que chacun va se mettre à s'investir dans la vie des réseaux sociaux qu'il utilise, en votant pour une gouvernance, en participant à des discussions sur les normes et en prenant des tours de modération. Alors, je lui soumets mon pessimisme et lui demande un exemple.
Un exemple que j'aime bien, ce sont les gens qui font un archive for own, une archive à soi. Ce sont des gens qui écrivent des fanfictions. Oh, il n'y a plus de nouvel album de Tintin, je veux l'écrire, écrire l'aventure suivante. Donc Tintin va au Donbass et j'écris la suite. Ce site est un endroit merveilleux, très riche, très créatif. Certaines des femmes aux États-Unis les plus actives dans cet endroit ont décidé qu'elles avaient besoin d'un espace à elles et ont donc créé ce site qui s'appelle Une archive à soi, évidemment sur le modèle du livre de Virginia Woolf, Une chambre à soi. 6 millions de gens y viennent par mois. Il accueille 10 millions de fictions. Il s'agit d'une communauté complètement indépendante, avec sa gouvernance propre, etc. Mais les gens sont prêts à vraiment s'impliquer pour cet espace qu'ils aiment et dont ils veulent prendre soin. Et d'ailleurs, rien ne vous oblige à être tout le temps celui qui fait tout. Dans chaque cercle d'amis, on sait très bien ce qu'il en est. Parfois vous êtes au centre, vous l'animez, parfois vous êtes à la périphérie. Ce serait la même chose dans ces espaces numériques.
Je n'avais jamais entendu parler de ce site, une archive à soi. Je suis donc allé voir. En effet, c'est assez fascinant. D'abord parce qu'il y a un nombre incroyable de contenus, tous ces gens qui passent des heures à écrire des textes, c'est dingue. Ensuite, parce que les sites de fanfiction, c'est toujours intrigant. Il y a plein de catégories, plein de genres et de sous-genres. On peut prolonger une histoire, on peut en imaginer une extension, on peut s'insérer soi-même dans une histoire existante, on peut faire des transpositions d'époque. Alors, il y a même une catégorie d'histoires imaginées à partir de personnages existants dans une archive à soi. Je suis tombé sur des textes en français dans lesquels quelqu'un imaginait une histoire d'amour entre Cyril Hanouna et un de ses chroniqueurs du nom de Camille Combal. Manifestement, ça ne doit plus être d'actualité parce qu'en cherchant qui était ce Camille Combal dont j'avais jamais entendu parler, je suis tombé sur une vidéo d'Hanouna, tout à fait récente, qui avait l'air d'être dans un dépit plus professionnel qu'amoureux.
Je veux dire, Camille, si j'entends ça, si t'as envie de faire un Danse avec les stars et qu'il veut gagner des millions, dis-le-moi, franchement, je peux comprendre. Là, il me dit non, 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 pas du tout, franchement, je te le dis. Bon, qu'il part comme ça, je le laisse réfléchir. J'ai plus de nouvelles. Il arrive la fin de la saison et je vois dans Le Parisien une interview de Camille Combal. Camille Combal va sur TF1, il va faire Danse avec les stars et qu'il veut gagner des millions. Donc, je ne l'ai même pas appelé. Je vous dis, c'est terminé comme ça. Je ne l'ai jamais eu au tel. Je l'ai eu après, je l'ai croisé une fois dans la rue. Je vous dis la vérité, c'est que ça me fait de la peine.
Alors, j'ai rien compris à l'embrouille, mais de toute façon, je m'égare. Moi, c'est toujours le problème avec le web. Bon, je reviens à Ethan. Il n'a pas tort, on voit partout des gens s'investir dans des activités bénévoles, y compris en ligne. Wikipédia en est un exemple flagrant. Il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas quelques personnes pour administrer des mini-réseaux sociaux. Ce qui me frappe chez Ethan, bon, c'est d'abord qu'il a réponse à tout, mais je ne dois pas être le premier à lui faire ses remarques. Surtout, je trouve qu'il pense différemment. Et je me demande si ça ne vient pas de son parcours assez bizarre. Ethan a commencé par étudier la philosophie et l'ethnomusicologie. Mais je ne sais pas vraiment quand il a rencontré les ordinateurs. Alors je lui demande, et ça a l'air de le faire marrer que je me pose la question.
J'ai rencontré les ordinateurs largement avant la philosophie. J'ai été dans une école élémentaire publique où il y avait un petit labo informatique. C'était l'époque des Commodore PET. Quand vous vouliez sauver un fichier, il fallait utiliser une cassette audio. J'ai adoré ça. J'ai appris à programmer avec des magazines et des livres. J'allais à la bibliothèque, j'empruntais des livres, je tapais les programmes et j'essayais de les corriger quand ils ne marchaient pas. Vous ne pouvez pas imaginer combien de programmes de ces livres comportaient d'erreurs. Et donc, je programmais des choses assez simples à 9 ou 10 ans.
Ok, voilà. Un autre truc qui me distingue d'Ethan, en plus de la taille et de la corpulence, on a beau avoir le même âge, avoir connu tous les deux les Commodore avec cassette, j'ai pas eu la même curiosité. Pendant que je jouais au foot en espérant devenir Platini, Ethan apprenait à écrire du code et corriger les programmes des magazines d'informatique. Voilà, il est devenu l'un des penseurs du digital le plus passionnant et reconnu, et moi, je suis pas devenu Platini. À quoi se jouent les destins ? Bref, on continue de remonter le temps. Et Internet, alors, quand a-t-il rencontré Internet ?
Quand je suis entré à l'université, j'y suis allé jeune, j'avais 16 ans. Et la motivation principale pour utiliser Internet, c'est que j'étais tombé amoureux d'une Californienne. J'étais dans le Massachusetts, elle en Californie, à 4000 km de distance. Nous avons fait ce que les jeunes amoureux font, nous avons échangé les mots de passe de nos ordinateurs. Le deal était meilleur pour moi, j'avais une vieille machine qui tournait sur VAX. Plus personne n'utilise VAX aujourd'hui. Elle était sur BST Unix, qui est en gros l'OS sur lequel repose Internet. Donc, en 1989, à 16 ans, j'ai eu une entrée sur le fonctionnement d'Internet.
Ah là là, c'est sublime. Voilà ce que c'est que l'amour chez les geeks. Tu files le mot de passe de ton ordi par amour et l'autre découvre comment Internet fonctionne par amour. Je fais une parenthèse, je trouve ça passionnant, l'amour chez les geeks, et ça me rappelle une histoire que j'avais racontée dans une chronique pour les matins de France Culture. Alors, c'est pas que j'adore me réécouter, mais comme ça me saoule de la résumer, paf, replay, on revient 5 ans en arrière.
Le billet numérique de Xavier Delaporte consacré ce matin à une histoire d'amour au temps du chiffrement.
L'histoire commence il y a des années. Ils se rencontrent grâce à des amis communs dans un collectif de hackers. Ils ont un peu parlé, mais elle devait partir. Ils se sont ratés et elle est repartie aux États-Unis. Quelques semaines plus tard, ils sont tombés l'un sur l'autre dans un chat IRC. IRC, c'est un système de communication numérique. Elle lui dit qu'elle aimerait bien discuter avec lui, mais lui, il ne vient pas beaucoup sur IRC. Alors, elle lui donne son adresse sur Jabber pour qu'il puisse se parler en privé. Jabber, c'est un système de chat décentralisé, des serveurs éparpillés dans le monde entier. Ils configurent leur compte pour ne pouvoir recevoir que des messages chiffrés grâce à un protocole du nom de OTR, Off the Record. C'est comme s'ils se parlaient dans une langue compréhensible que par eux seuls. D'autant que OTR a une fonction qui permet de créer des clés de chiffrement différentes pour chaque conversation. Impossible donc de relire un vieux message. C'est comme ça qu'ils ont commencé à se raconter leur vie dans une conversation dont ils ne pouvaient rien conserver. Ils se parlaient chaque jour, même quand ils échangeaient des fichiers, morceaux de musique, films, photos, poèmes qu'ils s'enregistraient en train de lire, ils les chiffraient. Un jour qu'elle vient en Europe, ils se retrouvent au Luxembourg, c'est la première fois qu'ils se revoient, ils parlent d'internet, d'ordinateur, d'activisme, c'est de ça dont parlent les gens des milieux hackers. Mais ils ne s'embrassent pas, manifestement. Le hacker a un problème avec le premier soir. Ils le font quelques mois plus tard, sur un balcon, alors qu'ils se revoient à Berlin. Et ils ont visité le musée de la Stasi. C'est ce que font les...
Mais quelle vie idyllique !
Et là, dans l'ancien bureau du directeur de la Stasi, elle le demande en mariage. Il accepte la demande. En lieu et place d'une bague, elle lui donne une clé USB. Ils sont les deux seuls à savoir ce qu'il y a dedans.
Mais quelle belle histoire !
Bon, c'est vrai, c'est une belle histoire. aussi belle que celle d'Ethan qui découvre le fonctionnement d'Internet par amour donc. Je ne sais pas comment s'est terminée cette romance, mais Ethan, en tout cas, a quitté l'université et les États-Unis.
Je suis ensuite parti en Afrique de l'Ouest pour étudier la musique. Quand je suis rentré en 1994, c'était le début du web. Et je me suis dit, oh, je comprends très bien tout ça. Ça fait parfaitement sens pour moi. J'ai passé 4 ans à étudier ça. C'était un peu comme si cette obsession que j'avais eue à l'université devenait soudain la compétence la plus valorisée au monde. Tout ça par pure coïncidence, sans aucune stratégie. Mais soudain, je faisais partie du tout petit nombre de gens qui en savaient beaucoup sur le fonctionnement d'Internet, et tout à coup, ça devenait très utile.
Moi, les gens qui maîtrisent les langages informatiques, qui comprennent Internet dans son fonctionnement le plus profond, ça me fascine. Et quand ces gens ont par ailleurs étudié l'ethnomusicologie en Afrique de l'Ouest et la philo aux États-Unis, je me dis qu'ils pourront m'éclairer sur la dimension intellectuelle de cette activité qui consiste à écrire des programmes informatiques. Et donc, je pose la question à Ethan.
Je ne trouve pas la programmation intéressante du point de vue intellectuel. Pour moi, c'est juste un outil pour résoudre des problèmes. Je n'ai jamais trouvé la recherche d'élégance en programmation plus amusante que la sculpture sur bois. Mais j'aime bien travailler le bois, j'aime bien la soudure aussi. Pour moi, la programmation, c'est comme la soudure. J'ai de l'admiration pour les gens qui le font bien. Moi, je le fais modestement, mais juste assez pour fabriquer ce dont j'ai besoin.
Ok, bon, c'est pas lui qui m'expliquera l'intérêt intellectuel de la programmation. Mais pas échaudé, je tente une autre question dans le genre. Je sais que Ethan a étudié l'ethnomusicologie en Afrique. Et donc, je demande s'il trouve des liens, s'il voit des liens entre sa connaissance de la musique et la pratique de l'informatique.
My interest... In West African music,
ce qui m'intéressait dans la musique d'Afrique de l'Ouest, c'est qu'il s'agissait du meilleur exemple d'un système philosophique qui ne ressemblait en rien à ce que je connaissais. La musique que j'ai étudiée dans le nord du Ghana était le xylophone de l'ethnie Dagara. En tant qu'occidental, vous ne comprenez rien à ce qui se passe. Mais petit à petit, comprendre ces systèmes, incroyablement sophistiqués, incroyablement beaux, c'est encore mieux que de prendre de la drogue. La drogue, c'était marrant. Mais la musique d'Agara, c'est vraiment ce qui m'explose la tête. Donc ça m'a profondément affecté en tant que personne. Et je pense que ça m'a aidé à réaliser les projets que j'ai menés toutes ces années et qui consistent à regarder les choses sous d'autres angles. Mais c'est difficile de trouver un lien avec la technologie.
Évidemment, je suis allé écouter des extraits de musique d'Agara. Par exemple, ces sons, enregistrés au Burkina Faso, parce que les Dagaras sont établis à cheval sur le Ghana et le Burkina Faso. Et là, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Ethan. En tant qu'occidental, on ne comprend rien. Je mets quiconque au défi de trouver le rythme de ce morceau. Mais ce qui est dingue dans la vidéo, c'est que les gens dansent dans un rythme commun. Et ça, c'est vraiment très beau à voir. Mais bon, encore une fois, je m'égare. La comparaison musique-techno, c'est encore une fausse piste. Alors je décide de revenir sur la voie principale qui va me mener, j'espère en tout cas, à cette histoire de pub pop-up. Quand il est revenu de ses 5 années passées entre l'Afrique de l'Ouest et les États-Unis, Ethan a intégré une entreprise qui a très bien marché, Tripod. Et je lui demande de me raconter ce que c'était que le monde des startups à succès dans ces années-là.
Tripod was a classic...
Tripod était une entreprise type de l'Internet première génération. Ce que je veux dire par là, c'est que notre PDG avait 25 ans. Il portait des pantalons déchirés, des sandales en corde et il venait au bureau en skate. Nos locaux étaient au dernier étage d'une usine qui fabriquait des câbles électriques. Donc ça puait à cause du caoutchouc métallisé. Alors, celui qu'on considérait comme un adulte était le directeur financier, et il devait avoir 35 ans. La boîte était dirigée très démocratiquement. Il y avait une table de billard, un ping-pong, et tout ce qu'ensuite Google et les autres ont cru créer. La grande différence est qu'on était installé dans une ville de 8000 habitants. Et donc on travaillait ensemble, on fréquentait les mêmes gens, on sortait les uns avec les autres, on vivait ensemble. Mon boss a même acheté le meilleur bar de la ville parce qu'il avait remarqué que c'était là que tout notre argent allait de toute façon. C'était donc une époque exceptionnelle. Rétrospectivement, je prends conscience qu'elle était aussi extraordinairement excluante. Si vous n'aviez pas la vingtaine, si vous étiez marié, si vous aviez des enfants, vous pouviez oublier. C'était impossible de travailler dans cette boîte. En fait, c'était une prolongation de la vie d'étudiant.
Trop marrant ce que raconte Ethan. D'autant que tout ce qu'il raconte ne se passe pas du tout en Californie, hein, dans la Silicon Valley si cool, si ensoleillée, mais à l'est des États-Unis, dans le Massachusetts, au bord des forêts et des parcs naturels. Mais ce qui est encore plus marrant, c'est comment Tripod se met à marcher. L'idée de la boîte, au départ, c'était de créer des contenus à destination des jeunes diplômés des universités américaines, pour qu'ils trouvent un boulot, pour leur premier appartement, pour qu'ils investissent bien leur argent, etc. Et Ethan raconte la suite.
Personne ne voulait de ce qu'on faisait et le business se cassait la gueule de manière catastrophique. Mais un soir, tard, un de mes développeurs a pris un outil que j'avais créé, qui s'appelait le constructeur de CV, et qui vous permettait de fabriquer un curriculum vitae pour le mettre sur le web. Et il a dit, et si on ne mettait qu'un champ avec écrit « tapez ici et vous aurez une page web ». Ça nous a pris une demi-heure. On l'a mis sur le web et puis on a oublié. Et un jour, j'ai eu un coup de téléphone de notre hébergeur qui m'a dit « Je veux juste vous avertir que votre facture s'élève à plus de 100 000 $ et qu'il me faut un chèque tout de suite. » J'ai dit « Mais normalement, c'est 10 000 $. Qu'est-ce qui se passe ?» Il a répondu « J'en sais rien, mais votre trafic atteint des sommets. » À l'époque, je n'avais même pas d'historique des connexions, je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Donc je me suis logué et je me suis tout de suite rendu compte qu'on avait 20 fois plus de trafic vers ces homepages que nous hébergions que vers tous les autres contenus qu'on faisait écrire pour une fortune par des diplômés de Harvard. Il nous a fallu 18 mois pour pivoter d'un business qui ne marchait pas vers un business qui a marché. Mon boss raconte aujourd'hui que ça a pris tout ce temps parce qu'il était amoureux d'une rédactrice et qu'il ne voulait pas la virer. Donc on a sans doute perdu des millions de dollars à cause de cette histoire d'amour. Mais oui, ça a été une époque incroyable, sans doute le meilleur boulot que je n'aurais jamais. Je n'ai pas du tout envie de le faire à nouveau, mais je suis heureux de l'avoir fait.
Si Ethan ne referait pas ce boulot aujourd'hui, c'est aussi parce que, sans doute, il n'était pas exactement comme ses collègues. Être là, ça l'amusait beaucoup. Le côté business lui plaisait, il avait rencontré sa première femme au bureau. Mais il avait aussi beaucoup voyagé, il savait que le monde était plus vaste. Et puis, encore une fois, il y a eu le hasard.
Nos utilisateurs, c'était d'abord les États-Unis. Ensuite, il y avait la Grande-Bretagne. Mais avant le Canada, en troisième position, il y avait la Malaisie. J'ai essayé de comprendre pourquoi. Donc, en 1996, j'ai imprimé des pages en malais. Je suis allé dans l'université d'à côté et j'ai trouvé le professeur de sciences politiques qui parlait le Bahasa. Tous les deux, on a compris qu'Anwar Ibrahim, le leader de l'opposition malaise de l'époque, avait sa homepage dans Tripod, comme toute l'opposition malaisienne d'ailleurs. Donc on a commencé à faire des choses assez subtiles pour soutenir la population malaisienne. La première chose, qui n'est pas du tout subtile, était de se dire même si on ne se fait aucun argent avec, on va garder ces pages. Parce qu'il était évident qu'on n'allait pas vendre de la pub sur des pages écrites en malais. Il n'y a pas de marché pour ça. La deuxième chose, ça a été de sponsoriser l'équipe olympique de Malaisie.
Évidemment, pour l'opposition malaisienne qui seule connaissait Tripod, c'était assez marrant sans doute de voir ce nom sur tous les athlètes de l'équipe olympique du pays. Manifestement aussi, ça leur faisait du bien parce que pendant les années qui ont suivi, ben, il arrivait que des Malaisiens tombent dans les bras d'Ethan quand ils apprenaient qu'il était un ancien de Tripod. C'est dire que tout ça n'a pas été sans importance. Et alors, de cette expérience, Ethan, lui, il tire une conclusion.
J'étais parfaitement conscient qu'Internet était en train de devenir le lieu de la parole. Et c'est devenu le grand mantra de ma trentaine.
Là, je sens que je dois faire un choix. Soit je pose tout de suite à Ethan ma question sur la pub pop-up, parce que je sais que c'est quand il était à Tripod qu'il l'aurait inventé. Soit je le laisse dérouler, et là on part sur sa trentaine, les grandes initiatives politiques, etc. Et plus jamais je ne reviendrai en arrière sur la pub. Donc, je prends mon courage à deux mains, et je demande à Ethan si c'est bien lui qui a inventé la pub pop-up.
Yeah, absolutely.
Alors là, je me dis, cool. Mais alors, Ethan ne me laisse pas du tout le temps de réagir, et il enchaîne de lui-même.
Think for a moment.
Pensez un instant à ce qu'est le business qui consiste à héberger les pages web d'autres personnes. Ça vous coûte de l'argent parce qu'il faut avoir les outils qui leur permettent de les construire, parce qu'il faut payer les serveurs, etc., etc. Il faut donc trouver de l'argent quelque part. Si vous mettez de la pub sur une page, les annonceurs ont l'impression d'être associés au contenu. Aujourd'hui, ça ne les dérange pas parce que Facebook et Twitter ont rendu ça normal. Mais en 97-98, ça n'était pas ressenti comme normal. Et donc, tout le temps, des annonceurs nous appelaient pour nous dire « Pourquoi notre pub est sur cette page? On n'approuve pas le contenu, on ne l'aime pas. » Et donc, mon patron m'a dit « Trouve une solution. »
Bon, pour ma part, je pense que j'aurais répondu « Mais qu'ils aillent se faire foutre, ces cons d'annonceurs. On va changer de modèle économique, on va passer à l'abonnement et basta. » Et puis, Tripod aurait coulé quelques semaines plus tard. Ethan, lui, il a trouvé une solution.
J'y ai réfléchi et j'ai eu une idée. Aujourd'hui, tout le monde programme en JavaScript, mais à l'époque, ce nouveau langage avait 4 ou 5 mois. Or, l'une des particularités du JavaScript est qu'il permet d'ouvrir plusieurs fenêtres. Donc je me suis dit, super! Quand on ouvre la homepage, ça va ouvrir une seconde fenêtre, plus petite, et là on mettra la marque Tripod, des liens vers d'autres homepages, vers une homepage au hasard, et puis une petite pub. 200 pixels sur 200 pixels. Une semaine après que j'ai fait ça, notre principal concurrent, GeoCities, a fait exactement la même chose. Mais dans leur fenêtre, il y avait juste de la pub et leur marque. Mon patron a dit « c'est mieux, fais comme eux ». Donc j'ai fait ça. Et très vite, tout le monde s'est mis à faire des pubs pop-up.
C'est bien le problème. Tout le monde s'est mis à faire ça. Et le fait encore. Et voilà comment, quand aujourd'hui on cherche à regarder un match de foot sur un site de streaming pirate par exemple, on a 10 fenêtres qui s'ouvrent avec des pubs pour parier en ligne, pour rencontrer des femmes près de chez soi ou augmenter la taille de son sexe. Alors je demande à Ethan si aujourd'hui il ne regrette pas d'avoir légué ça à l'internet.
J'ai écrit pour la revue The Atlantic un texte où j'explique que la publicité est le péché originel de l'Internet et où j'assume la responsabilité d'avoir inventé le pop-up. Et j'explique que c'était une mauvaise solution à un problème important. Le problème, c'est qu'il fallait bien trouver un moyen de financer les contenus générés par les utilisateurs. Et c'est toujours le cas. Mais je reconnais que ce n'était pas une manière très responsable, ni très saine de le faire.
Ok, au moins, c'est clair et sans embâge. Je suis assez reconnaissant, j'avoue, à Ethan de ne pas se tortiller pendant 20 minutes pour m'expliquer en bafouillant qu'en fait, les pop-ups, c'était un super truc, etc. Il regrette. Mais je trouve que cette histoire de la pub pop-up, c'est un condensé chimiquement pur de l'histoire de la techno. Au départ, on a une possibilité technique vaste. Un langage qui permet d'ouvrir plusieurs fenêtres en même temps. Ensuite, il y a quelqu'un qui trouve des usages à cette possibilité. En l'occurrence, Ethan qui décide d'y inscrire du branding, des liens et une petite pub. Et puis au final, il y a la restriction à un seul usage, le plus rentable économiquement, mettre dans cette fenêtre une grosse pub de merde. Mais bon. Si ça n'avait pas été Ethan, sans doute que quelqu'un d'autre aurait eu cette idée. Je reviens donc à ce dont il voulait parler. sa trentaine quand, après avoir travaillé chez Tripod, il décide d'aller à Harvard, où il devait rester un an, et où il en a passé 8. Et je lui demande ce qu'il y a fait.
J'ai lancé deux gros projets là-bas. J'ai lancé Global Voices, un média rassemblant des citoyens du monde entier. Et j'ai lancé Media Cloud, un outil technologique que les gens utilisent pour voir les sujets sur lesquels la presse se concentre, quels sujets sont couverts par les médias. Ce que j'y ai appris, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être une société à capital risque pour lancer quelque chose. Apprendre que les universités peuvent aussi lancer des startups a été très intéressant.
Global Voices Online va bientôt avoir 20 ans et Media Cloud 15 ans. Alors ces projets continuent d'exister, hein, d'avoir du succès, donc d'être développés, adaptés aux nouveaux supports, aux nouveaux logiciels, aux nouveaux usages, et tout ça, bah, ça coûte de l'argent. Un argent que ne peuvent plus fournir les universités qui étaient à leur origine. Et ça, ça interroge beaucoup Ethan.
Many of my questions these days...
En ce moment, je m'interroge beaucoup sur les business models et les moyens de financement qui ne passent pas par le capital risque et le marché. Aucune des idées dont je parle ne sont faites pour connaître une grosse croissance. Par exemple, une des vocations de Global Voices est de recenser très précisément ce dont les gens parlent sur Internet de par le monde. Vous voulez savoir de quoi parlent les gens en Myanmar, Global Voices vous le dira. Le problème, c'est que dès que vous ajoutez un nouveau pays, ça veut dire plus de personnel et plus de travail. Vous pouvez financer ça avec des fonds spéculatifs, mais si vous prenez leur argent, ils vous feront changer votre business model. Donc comment finance-t-on des choses importantes, mais dont les revenus croissent de manière très linéaire ou même qui ne génèrent aucun revenu? Il y a beaucoup de choses très importantes dans la vie qui ne génèrent aucun profit.
Pour le cas de Global Voices Online, les revenus y proviennent de sources multiples, hein, de la traduction, de l'expertise qui est vendue à des entreprises ou des médias, et aussi des dons par des fonds comme la Fondation Gates, etc. Et ça a l'air de fonctionner, hein, mais alors la question c'est pour combien de temps? Mais je trouve ça intéressant que la question économique préoccupe autant Ethan. Il y a chez lui un pragmatisme que j'admire. Mais bon, moi, les questions de modèle économique, ça me passionne pas. Donc, je vire de bord et demande à Ethan quand il a pris conscience qu'Internet allait prendre cette place dans nos vies.
Je pense dans les années 90. J'avais dans l'idée qu'Internet serait destiné à un petit nombre de gens et qu'il serait vraiment important pour 20 ou 30% des gens. Je ne me serais jamais attendu à ce qu'il le devienne pour mes parents et pour tout le monde. Mais à la fin des années 90, j'ai vu que tout le monde allait être concerné. Cela dit, je crois qu'il y a encore eu un nouveau tournant avec le téléphone. Je n'ai pas tout de suite compris combien il serait différent d'avoir Internet dans sa poche. Moi, je suis une créature de l'ordinateur personnel. Je n'ai aucune raison particulière d'avoir mon ordinateur portable avec moi aujourd'hui. En plus, il est lourd, mais je l'ai avec moi. Parce que je me dis tout le temps que c'est comme si j'avais ma maison avec moi. Mais pour des gens plus jeunes, c'est le téléphone qui est la maison. J'ai raté ce saut. Je pense qu'il a fallu que je constate à quel point le téléphone transformait l'Afrique subsaharienne pour comprendre qu'on avait gagné et qu'Internet était partout et pour toujours.
Alors c'est assez courageux pour un mec comme Ethan d'avouer qu'il n'avait pas vu venir le téléphone, qu'il lui a fallu du temps pour le comprendre et que dans ses pratiques quotidiennes, eh ben, il reste d'un autre temps. Je suis en totale empathie avec lui. Mais je sais que chez moi, c'est aussi le produit d'un rapport à l'innovation qui est pour le moins distant, pour ne pas dire réfractaire. Je crois que la nouveauté, ça m'emmerde par principe. Alors, je ne sais pas si c'est ce qui me reste d'aristocratique ou quoi, mais en tout cas, c'est un obstacle quand on est censé s'intéresser aux technologies. Donc, je suis curieux de savoir comment Ethan définirait son rapport à l'innovation, aux nouveaux objets ou services qui apparaissent tout le temps.
Si vous vous intéressez à chaque nouvel objet, vous vous trompez 9 fois sur 10. Réfléchissons deux minutes au métavers. Tout le monde dit, c'est important, tu devrais regarder ce qui se passe. Mais en fait, le rush a déjà eu lieu vers 2006-2007 autour de Second Life. Second Life n'a jamais eu plus d'un million d'utilisateurs. Si vous avez investi du temps, de l'argent et de l'énergie dans Second Life, vous avez presque tout perdu. Ça n'est jamais devenu le gros truc attendu. Donc, être le premier à adopter un truc n'aide pas beaucoup. Parfois, vous êtes juste le premier à adopter un truc débile. Donc, j'essaye d'être prudent dans mes engagements.
Ethan Zuckerman, merci. Voici toute ma paresse théoriquement justifiée par un des grands penseurs du web. Je pourrais tranquillement continuer à dire qu'il faut bien se garder de se ruer sur toutes les nouveautés, qu'il ne faut pas être aliéné par un monde qui a besoin du renouvellement permanent pour survivre, un monde qui a créé cette notion d'innovation pour masquer le fait qu'au fond, il n'invente pas tant que ça. Bref, entendre un type comme Ethan parler de sa propre prudence, moi, ça m'enchante. Alors, fort de cette satisfaction, je monte d'un cran. Le cran de son rapport global à la technologie. Si j'imagine bien qu'il n'est pas un technophobe bas du front, si je crois percevoir qu'il n'est pas non plus un technophile béat, je lui demande si c'est le terme sceptique qui lui conviendrait.
Je suis très sceptique. Par exemple, je trouve les arguments en faveur de la réalité virtuelle dans le jeu vidéo très convaincants. Je regarde les enfants que j'ai autour de moi y jouer, mais ce n'est pas ce à quoi ils jouent le plus. Ils jouent beaucoup plus à Minecraft ou Roblox. Pour moi, l'un et l'autre sont une version beaucoup plus intéressante du métavers. Quelle est la différence entre Minecraft et Roblox et ces autres systèmes de réalité virtuelle? Le graphisme est atroce en comparaison, mais c'est participatif. Vous pouvez construire ce que vous voulez. C'est donc que la dimension participative est importante. Donc, si on réfléchit en termes de nouveaux médias, pouvoir et créer facilement est un enjeu très important. Pourquoi TikTok a décollé aussi vite? Vous pointez une caméra vers vous, vous chantez, vous faites une blague et vous pouvez devenir viral. Ça n'est pas plus compliqué que ça. Or, ce n'est pas du tout le cas dans le métavers. La modélisation 3D, c'est difficile. Même décider du monde dans lequel on veut vivre en 3D est difficile. Est-ce qu'il faut qu'il y ait la gravité? Comment on se déplace? Quels objets on peut bouger? Lesquels sont fixes? Donc je regarde toujours la facilité avec laquelle on crée des contenus plus que la facilité avec laquelle on consomme. Je regarde ce que les gens font vraiment plutôt que ce qu'ils disent faire. Et je regarde les choses véritablement intéressantes que font les gens et qu'on ne s'attendait pas qu'ils fassent.
Là, c'est très beau ce que dit Ethan. Adopter comme critère d'évaluation la participation et la facilité de création, c'est passionnant. Et c'est lumineux concernant le métavers, dont on imagine mal comment il pourrait permettre vraiment ça, créer, participer. Mais je me permets une remarque. C'est beau comme critère, c'est même très fidèle aux premières utopies de l'Internet, mais c'est assez loin de ce qu'il est devenu. Et je rétorque à Ethan que sur TikTok, par exemple, la part des gens qui créent ou agissent est très faible par rapport à ceux qui regardent, beaucoup plus faible que sur les autres réseaux sociaux. TikTok, c'est une nouvelle télé plus qu'un espace de création. Et alors je lui dis tout ça, et je lui dis aussi que sous ses airs de pragmatique, eh ben, il a un fond super utopiste. Réponse d'Ethan.
Let me put it as a hypothetical, right?
Laissez-moi formuler une hypothèse. Tout le monde regarde Facebook, Twitter et compagnie et se dit « Ce ne sont pas des espaces désirables. Les choses devraient être différentes. On devrait brûler tout ça. » La question que je pose, c'est « Le problème, c'est la technologie ou le business model ?» Je peux imaginer un réseau social sain parce que j'ai vu des gens en créer. Je vis à 10 km de l'État du Vermont. C'est l'État le plus progressiste des États-Unis. Il a un sénateur socialiste. C'est un petit État rural. Il a aussi son réseau social propre qui s'appelle Front Porch Forum.
Front Porch Forum.
C'est une liste de diffusion. Chaque ville a sa liste. Vous pouvez poster, mais chaque post est modéré en amont. Et on reçoit un mail par jour. C'est à but lucratif, c'est un business. Mais il est géré par 10 ou 15 personnes. C'est hyper populaire. 70% des foyers du Vermont y sont abonnés. Et c'est un des outils principaux des politiciens pour sonder les gens ou avoir des informations. Mais le contenu majoritaire, c'est « Hey, ma souffleuse à neige est cassée. Est-ce que quelqu'un a des pièces de rechange ?» Son succès est incroyable. C'est géré comme une petite affaire familiale. Et ça marche. Est-ce que ça pourrait être mis à l'échelle ? Je ne sais pas. Si vous demandez à Michael Wood Lewis, qui en est le propriétaire, il vous dira « je ne veux pas grandir ». Et je sais en coulisses que des gens lui ont proposé des millions de dollars pour l'étendre à tout le pays, et qu'il a dit non. Donc, suis-je utopiste ? Oui, bien sûr, je suis utopiste. Mais je suis un utopiste qui comprend que la technologie toute seule ne rendra pas forcément le monde meilleur. Et je suis un utopiste qui comprend que le business model compte énormément. Un utopiste qui est social-démocrate. Je crois que les milliardaires sont un problème, pas une fin en soi, et je sais qu'imaginer l'avenir de nos technologies autour de la création de milliardaires est problématique. Ce qui m'intéresse, c'est comment créer plus de Front Porch Forum et de Michael Wood Lewis plutôt que plus de Twitter et d'Elon Musk.
Mais bon, je lui demande quand même s'il n'admire pas un peu ces types pour ce qu'ils ont fabriqué au moins.
Non.
D'abord, les humains ont besoin d'histoires avec un seul personnage principal. Si vous pensez que Tesla, c'est Elon Musk, vous vous trompez. Il est la tête de proue derrière laquelle plein de gens ont fait des choses très intelligentes dans le domaine du design automobile. Musk est une focale intéressante pour regarder des transactions financières qui, franchement, sont dingues. Mais il n'y a pas que lui. Je me souviens m'être rendu compte de ça du temps de Tripod. Souvenez-vous, j'ai 24-25 ans et je suis très frustré par le fait que notre PDG recueille toute l'attention. Dans le bureau d'à côté, il y a notre directrice de communication qui a aussi 25 ans et elle me dit « Les journalistes ont besoin d'un personnage principal. Et Bo, notre PDG, va être le personnage principal. On sait tous les deux que toi et moi, on a fait autant que lui pour que cette boîte marche. Il le sait aussi. C'est la raison pour laquelle ça vaut le coup de bosser pour lui. Mais le reste du monde ne le sait pas et ne doit pas le savoir. Tu peux en être agacé, mais c'est ce qui rend plus facile pour moi le fait de vendre l'entreprise à la presse. Elle avait absolument raison. Donc, Zuckerberg est-il un génie ? Il est hyper impliqué, très intense. Il fait en sorte que beaucoup de gens aient envie de travailler pour lui. Je suis sûr qu'il a un peu de génie dans le fait de rassembler une direction, des investisseurs et tout ça. Mais on ne peut pas le blâmer lui tout seul pour toutes les erreurs de Facebook. Ni faire de lui le seul responsable de tous les succès de l'entreprise. On a besoin de moins de milliardaires. Et je crois qu'une culture qui idéalise les milliardaires, comme notre culture tech, est une culture profondément malsaine.
Je viens de lire un livre qui parle exactement de ça. Il s'appelle « Le mythe de l'entrepreneur, défaire l'imaginaire de la Silicon Valley ». C'est un chercheur français du nom d'Anthony Galuzzo qui l'a écrit, et il décrit exactement ce que raconte Ethan. La manière dont l'industrie de la tech construit la légende de ses grands leaders, quitte à réécrire complètement l'histoire, en oubliant tous les autres acteurs, à commencer par tous les autres employés et l'État. Galuzzo, il explique aussi que c'est un vieux truc inhérent à l'histoire du capitalisme. Au début du XXe siècle, l'économiste Joseph Schumpeter faisait déjà de l'entrepreneur un visionnaire plus apte à changer le monde que tous les autres humains. Ce qui est malsain là-dedans, pour reprendre le mot d'Ethan, hein, c'est que ça nous rend aveugles à la vraie manière dont sont imaginés et fabriqués ces produits. Que ça efface les rapports de force, d'exploitation, et même que ça nous empêche d'imaginer d'autres manières de faire. J'aurais envie de discuter de tout ça avec Ethan, parce que lui, il aurait sans doute pu devenir un type comme ça. Mais bon, il a choisi une autre voie. D'après ce que j'ai compris, l'argent qu'il a gagné avec Tripod, parce qu'il en a quand même gagné un peu, il l'a en partie consacré à d'autres projets qui n'ont pas tous marché. Bon bref, j'aurais aimé parler de tout avec Ethan, mais je sens qu'il s'impatiente, il a des gens à voir à Paris. Alors je le remercie et je lui dis qu'il vient de me donner une très belle conclusion qui boucle parfaitement avec le début de notre discussion. Et là, juste avant que j'éteigne mon enregistreur, j'entends dire un truc.
Lovely. Is that what you needed?
Super, vous avez ce qu'il vous fallait?
J'ai trouvé ça beau, cette phrase. D'abord parce que Ethan a beau bien connaître l'Afrique et même l'Europe, il reste tellement américain dans cette politesse de l'interviewé qui essaie de satisfaire son public. Ensuite, cette fin de discussion, elle me fait penser à un très beau et très célèbre morceau de jazz. Il est sur l'album Something Else du saxophoniste Cannonball Adderley. Bon, c'est un sublime album où on peut entendre aussi Art Blakey à la batterie, Hank Jones au piano et Miles Davis à la trompette. Et à la toute fin d'un des morceaux, One for Daddy-O, on entend la voix lointaine de Miles Davis qui demande au producteur Alfred Lion si c'est ce qu'il voulait.
Is that what you wanted, Alfred?
À chaque fois que j'écoute ce morceau, j'imagine la tête ravie d'Alfred Lion derrière la vitre du studio. Et elle a dû ressembler un peu à celle que j'avais en sortant du café où j'avais retrouvé Ethan. Merci à Ethan Zuckerman et à Dominique Cardon d'avoir joué l'entremetteur. À la prise de son, c'était Anne-Laure Cochier, mixage Benjamin Orgeret, au doublage et à la réalisation Fanny Beauhuon. C'était Le Code a changé, un podcast qui vous est proposé par France Inter en partenariat avec Faber Novel.